Eh bien, je vous propose maintenant de lire quelques textes dans la Bible. Deux textes, plutôt. Le premier dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Donc, c'est pour la circonstance, c'est le peuple d'Israël qui a été délivré du pays d'Égypte, dans lequel il était esclave. Et là, sur le mont Sinaï, Dieu lui donne les 10 commandements particuliers pour lui signifier le comportement qu'il doit avoir en rapport avec sa volonté. Nous lisons les versets 18 à 20. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et il se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. » Et puis, nous allons lire le psaume 112. Psaume 112. On retrouvera dans ce psaume des mots que nous avons lus dans ce passage du livre de l'Exode. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a pas de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Alors, à cause de l'évolution du langage, nous avons quelquefois du mal à comprendre certains mots, en particulier certains mots dans la Bible. Le mot « crainte », que nous avons lu à plusieurs reprises dans ces deux passages, fait partie de ces mots dont nous tordons le sens dans la Bible. Le mot « crainte » a plusieurs notions. Je pense que la première notion qui nous vient à la pensée, c'est la peur. Voilà. Or, dans la Bible, la crainte est une notion essentielle de la vie avec Dieu. Il ne faut donc pas se tromper de signification. On peut être chrétien et pourtant ne pas craindre Dieu de la bonne manière. Alors ce sera intéressant de voir ce que la Bible dit quant aux conséquences de la crainte de l'Éternel. Peut-être que nous abordons l'existence de Dieu d'une manière un peu comme on aborde aujourd'hui les relations, copain-copain. Et cette notion de la crainte de Dieu, peut-être, nous permettra d'approcher Dieu d'une autre manière. Alors d'abord, je vous propose de voir ce que la crainte dans la Bible n'est pas. Au Sinaï, dans le passage que nous avons lu, Dieu apparaît dans sa toute-puissance, à travers le tonnerre, les tremblements de terre. Et pourtant, peut-être que vous avez remarqué, Moïse demande au peuple de ne pas s'effrayer, de ne pas avoir peur, mais de manifester de la crainte envers l'Éternel. N'ayez pas de crainte. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour que vous le craigniez. La peur est donc différente de la crainte. La crainte vis-à-vis de l'Éternel. Ou encore ce verset dans le psaume 112. Hein. Heureux celui qui craint l'Éternel. La joie et la peur ne peuvent que s'opposer normalement. Mais ici, elles sont liées. Celui qui craint l'Éternel est heureux. Paul écrit aux chrétiens de Rome, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Père. » La certitude de nous savoir acceptés par Dieu nous remplit de paix, de tranquillité, non pas dans une relation conflictuelle, de crainte, peur, mais dans la certitude de l'acceptation de Dieu. L'apôtre Jean écrit dans sa première lettre au chapitre 4, « L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose le châtiment. » Alors ça signifie que vivre avec Dieu dans une communion vraie exclut la peur de vivre avec lui. Pourquoi ? Pourquoi nous pouvons ne pas avoir peur dans notre relation avec Dieu ? Parce que le chrétien n'a plus peur d'être puni, condamné par Dieu. Il est pardonné. Dieu l'accepte à travers l'œuvre de Jésus à la croix. La mort de Jésus nous rend Dieu propice. Nous n'avons donc plus rien à craindre. Alors maintenant, je vous propose d'essayer de mieux comprendre certains textes où il est parlé de la crainte que l'on doit manifester envers Dieu. Les traductions récentes peuvent nous aider. Elles apportent une nuance qui définit mieux ce que la crainte est. Craindre l'Éternel est traduit de plusieurs manières, par exemple, reconnaître l'autorité du Seigneur, respecter l'autorité de l'Éternel, ou encore révérer le Seigneur. Craindre le Seigneur, c'est toutes ces notions-là. Dans l'Ancien Testament, cette expression décrit le plus souvent le respect et l'amour. Par exemple, envers les parents, il est demandé aux enfants de respecter, littéralement, de craindre sa mère et son père. Et la crainte de l'Éternel est avant tout le respect, la soumission à sa volonté, mais qui est motivé par la foi et l'amour envers lui. L'obéissance n'est donc pas déterminée par la peur, sinon on tombe dans le légalisme, mais par l'amour envers Dieu. La crainte a donc deux notions, mais qui sont opposées. La peur et l'amour. L'un éloigne, l'autre rapproche. La peur détruit intérieurement et elle perturbe les relations avec les autres, tandis que le respect fait grandir et place les rapports mutuels sur une base solide. La peur découle de l'orgueil de l'autre qui cherche à écraser. La soumission découle de l'amour qui épanouit. Dieu demandait à son peuple, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. » Et puis quelques versets plus loin, c'est dans le livre du Deutéronome chapitre 6, « Tu respecteras, tu craindras l'Éternel. » Aimer et respecter, craindre, vont ensemble. Vouloir vivre comme Dieu le demande, c'est la conséquence normale de cette crainte respectueuse. Au Sinaï, Dieu enseigne à Israël qu'il est normal de se soumettre à sa volonté et de lui obéir sans pour autant être écrasé par la peur à cause de sa puissance. La crainte du Seigneur, vis-à-vis du Seigneur, est donc le comportement de celui qui veut avoir une conduite conforme à ce que Dieu veut. La crainte, la vraie crainte de Dieu, c'est celle de lui déplaire. Salomon associe l'humilité et la crainte de l'Éternel. Sois humble et révère l'Éternel. Alors, ce qui est incompréhensible, puisque la crainte et la soumission sont liées. Ailleurs est opposé celui qui vit dans la crainte respectueuse à celui qui s'endurcit. Ce dernier refuse de reconnaître, d'accepter et de vivre une autre volonté que la sienne personnelle. Je pense à Jonas aussi. Jonas qui a connu deux sortes de craintes. La peur devant Dieu parce qu'il avait refusé de craindre Dieu, c'est-à-dire de suivre sa volonté en allant à Ninive, mais il est parti tout à fait à l'opposé. Pourtant, juste avant d'être jeté dans la mer, quand il part vers Tarsis, sur un navire avec des marins païens, il reconnaît devant ses marins « Je suis hébreu et je crains Dieu ». Peut-être seulement du bout des lèvres, parce que dans les faits, il ne le respecte pas. Il n'a pas du tout l'intention de suivre sa volonté. Quant aux marins, face à la tempête, il est dit « ils eurent peur ». Ça, c'est la première notion de la crainte à laquelle nous pensons. Mais après qu'ils aient vu la mer se calmer, ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils ont respecté tout d'un coup ce grand Dieu qui a agi sur les éléments de la mer et qui l'a calmé une fois que Jonas a été jeté dans la mer et avalé par un poisson. Ils apprennent à respecter Dieu à cause de ses œuvres et de son action grandiose. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apporte une autre notion. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Ce salut que Dieu nous donne, c'est du solide. Nous pouvons compter sur la certitude d'être sauvés parce que c'est Dieu qui nous la donne. Soyons donc reconnaissants, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, avec foi, avec ce désir de rester attaché au Seigneur et en même temps avec la crainte. La crainte respectueuse va de pair avec la confiance. L'obéissance à sa volonté est un signe de notre reconnaissance, mais aussi d'une prise de conscience qui vient de notre connaissance de qui est Dieu. Le verset suivant interpelle. En effet, notre Dieu, est un feu dévorant. Si Dieu est amour, sans sa justice, son amour ne serait que faiblesse. Le manque de crainte respectueuse envers le Seigneur vient aussi de l'oubli de sa justice. Certains conducteurs, qui ont le permis depuis même des années, ou peut-être des dizaines d'années, ne respectent pas toujours certains points du code de la route. Ah, l'habitude, la tolérance vis-à-vis de certains domaines. Il ne faut pas que je regarde certaines personnes, parce qu'elles vont se sentir visées. Le respect du gendarme diminuant, on perd cette conscience d'obéissance au code de la route. Comme en tant que chrétien, on peut oublier qui est Dieu et ce qu'il demande et tolérer certaines mauvaises habitudes dans notre vie. Jésus, en tout cas, avait cette attitude de soumission. Il vivait dans la crainte de l'Éternel, est-il dit. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, c'est une prophétie qui date de 7 siècles avant la réalisation. Il est dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, le Messie. Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et il est rajouté, il respirera la crainte de l'Éternel. Jésus vivait non pas dans la peur vis-à-vis de son Père, mais dans la soumission complète à sa volonté. C'était sa vie et il en rayonnait. Et puis en troisième point, j'aimerais que nous nous arrêtions sur les conséquences de la crainte spirituelle. Ces conséquences sont bienfaisantes et elles sont aussi essentielles pour notre vie. Je reprends le psaume 112, verset 1er, qui dit « Heureux celui qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. Heureux celui qui craint, qui a une attitude respectueuse vis-à-vis de l'Éternel. » Ça veut dire que c'est un épanouissement profond, une vie de plénitude, heureux, qui résulte de cette attitude de respect, d'obéissance et de soumission à Dieu. Et face aux épreuves, le même psalmiste affirme, ferme sur ses positions, celui qui respecte Dieu, qui vénère Dieu, n'a pas de crainte. Encore une fois, en quelques versets, sont opposées ces deux notions de la crainte. Une qui rend joyeux, heureux celui qui craint, qui a une attitude respectueuse vis-à-vis de l'Éternel, et une autre qui terrorise. Et le psalmiste n'a pas cette attitude de peur, terrorisée, parce qu'il a confiance en Dieu. C'est Racine, dans la pièce Athalie, qui fait dire à Joad, « Je crains Dieu et n'ai point de crainte. » Il joue aussi sur les deux sens de ce mot. Et cela montre bien que le respect vis-à-vis de Dieu conduit à vivre dans le calme, même devant ceux qui sont plus forts que soi. Je pense aussi au psaume 40 qui dit « Beaucoup voudront craindre, révérer l'Éternel et lui faire confiance quand ils verront ce qu'il a fait. » Cela montre que le respect vis-à-vis de Dieu conduit à la confiance. La peur, elle, ne pousse pas à la confiance, mais la connaissance de ce que Dieu est, fait, conduit à la foi confiante en lui. Dans les proverbes et les psaumes, la crainte de l'Éternel et la sagesse sont liées. Et même il y a une identification entre les deux termes. Par exemple, au début du livre des proverbes, il est dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Dans une autre traduction, on peut lire « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel ». Donc cette crainte respectueuse est le point de départ, le début du chemin qui conduit à une vraie intelligence. Pas une intelligence sur le plan intellectuel, mais qui est liée à la vie. Et on constate, je pense que vous aurez le même constat que moi, que vouloir être intelligent sans se soumettre à Dieu, c'est courir à l'échec à plus ou moins longue échéance. Il n'y a qu'à voir les résultats débridés dans les domaines comme la biologie, l'industrie, les sujets éthiques, ou simplement avec le domaine de la langue. Quand l'intelligence n'est pas liée à la volonté de Dieu, il n'y a aucune limite. Autrement dit, par un certain Montaigne, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Notre société paye les frais de son expérience en voulant exclure Dieu. Et le résultat se trouve être, comme Jérémie le dit au chapitre 17 de son livre, « Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. Il ne verra pas arriver le bonheur. » Je pense aussi à la sagesse pour éduquer nos enfants, qui est également liée à notre respect pour ce que Dieu nous dit. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Proverbe 14. La réussite de notre éducation passe avant tout par notre soumission personnelle à ce que Dieu nous demande. Pour les jeunes, la sagesse de la société, même si elle fait baver, et c'est normal parce que nos pulsions vont dans le même sens, cette sagesse est facile et rapide, alors que la sagesse de Dieu est plus longue et plus difficile à comprendre et à vivre. C'est un étudiant qui voulait faire des études pour être pasteur dans une école biblique et qui alors demande au directeur s'il peut réduire le temps d'études de 3 ans à 2 ans, histoire d'être plus rapide. Et le directeur alors qui lui répond, quand Dieu fait un chêne, il y met 100 ans, mais 6 mois lui suffisent pour faire une gourde. La rapidité n'est pas toujours la bonne chose. Et notre société veut nous faire aller rapidement pour tout. Ça, c'est la sagesse du monde. Et Dieu nous travaille quelquefois longuement. Mais voilà que la sagesse du monde mène au non-sens de l'existence souvent, qui fait dire, comme déjà il y a longtemps du temps d'Ésaïe encore une fois, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Mais l'autre sagesse, selon Dieu, conduit à la vie. Je crois pour l'Église aussi qu'il est important que chacun vive sa foi dans cette crainte respectueuse de Dieu. C'est Luc, dans le livre des Actes, qui fait un lien direct entre plusieurs faits quand il écrit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, et la Samarie. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. » Et le résultat de tout cela, c'est le verset suivant, « Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Cela montre que l'édification dans l'Église et la foi respectueuse en Dieu débouchent sur la paix et sur la croissance, tout naturellement. La vie de communion avec Dieu est la base de tout, même pour l'accroissement spirituel et numérique. L'exemple de Noé est intéressant. Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille, est-il dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. C'est cette crainte respectueuse de Dieu, et non des appels pour s'engager pour Dieu, qui est nécessaire pour que les chrétiens vivent par la foi, témoigne, s'engage pour lui. Le résultat de cette crainte du Seigneur chez Noé est extraordinaire. Elle a été source de salut. Et un dernier, peut-être dernier domaine, nous avons le péché qui nous colle à la peau. Nous nous débattons avec certaines pulsions que nous ne maîtrisons pas. Nous ne pouvons nous en dépêtrer peut-être. Alors, l'apôtre Paul dit, dans la seconde lettre aux Corinthiens, « Efforçons-nous d'être parfaitement saints, rien de moins, parfaitement saints, en révérant Dieu, en vivant dans la crainte de Dieu. » La solution pour nous, c'est de vivre dans la crainte respectueuse de Dieu et non pas d'essayer de sortir du filet dans lequel on se débat par soi-même. On voit pas mal de problèmes de soumission, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, et pas seulement dans la société en général. Ce refus de soumission réciproque crée des difficultés incalculables. La solution, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Ce qui importe donc par-dessus tout, c'est de vivre devant Dieu, ce respect et cette soumission. Et Paul dit alors que la soumission réciproque est le résultat de la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque nous nous laissons pleinement diriger par le Saint-Esprit. Le manque de soumission aux autres est à l'origine un problème spirituel. Il est nécessaire de le régler d'abord dans notre relation avec Dieu et de lui demander de diriger, de contrôler toute notre vie. Alors, pour terminer, bien oui, on en revient encore et toujours à la même case de départ, à savoir cette parole de Jésus, chercher premièrement la volonté de Dieu, ce qui est dit par la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et je crois que nous pouvons vraiment faire cette prière que faisait le psalmiste, « Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. » Peut-être que nous pourrions prendre quelques instants pour repenser à certaines choses, certaines paroles qui ont été dites pour que nous nous placions devant Dieu.